Présente devant vous avec un petit peu en contre-emploi par rapport au personnage que je voudrais vous présenter ce matin. Le personnage dont je vais parler ce matin, il n'était pas malade, il était en pleine santé, il était fort et puissant, donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans la peau du personnage. Je voudrais vous parler de Samson, de celui dont le nom veut dire l'homme-soleil. C'est quand même un personnage que l'on trouve dans le livre des juges, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et on trouve trois chapitres qui parlent de lui, donc c'est quand même quelque chose d'assez consistant dans la Bible pour parler de cet homme, Samson, qui est quand même déroutant. Parce que, enfin, j'espère que vous connaissez un petit peu l'histoire de Samson, si vous ne la connaissez pas, alors je vous invite vivement à parcourir rapidement, si vous avez une Bible, et puis sinon, en rentrant chez vous, ces trois chapitres, des juges, chapitre 13 à 16, il y a trois chapitres. Et il y a tout un ensemble de petites histoires qui se suivent et qui concernent la vie de Samson. Mais Samson nous apparaît dans cette histoire avec un caractère de quelqu'un qui est provocateur, qui est certes habité par l'Esprit de l'Éternel, et quand l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il est doué d'une force prodigieuse, personne ne peut le contenir, il massacre tous ses ennemis. Mais ce qui semble l'animer, c'est un esprit de vengeance, et le mot est employé souvent. Ce qui est son moteur à Samson, certes l'Esprit de l'Éternel, mais il ne faut pas le chercher. C'est un homme qui apparaît avec un ego surdimensionné. C'est un homme qui apparaît comme profitant des plaisirs de la vie, et en particulier les femmes. Il aime les femmes, et il va les chercher là où elles sont, voire même des prostituées. Et à la fin de sa vie, cet homme est un kamikaze. Et voilà que Samson tient une place dans la Bible. Dieu l'a utilisé. Et la Bible dit, et je crois que c'est un petit peu la clé, c'est que quand on lit l'histoire de Samson, il faut s'arrêter sur les petits détails, sur les petites choses. Si on lit le texte comme un scénario de Hollywood, comme une manga, comme une bande dessinée où le héros massacre tout autour de lui, peut-être on aura un mythe, mais on n'aura pas le message que veut nous délivrer la Bible à travers cet homme qui a, je le crois, réellement existé et qui a réellement accompli les actes qui sont décrits. Parce que dans la manière de les raconter dans la Bible, on découvre que c'était bien là un homme habité par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'avec Samson, Dieu a commencé à délivrer Israël de la main de ses ennemis, les Philistins. Et alors c'est là un des paradoxes de la parole de Dieu, c'est qu'au sein d'une histoire romanesque, on a là aussi un homme qui est montré avec ses chutes, d'une certaine manière un anti-héros. Héros dans le sens de sa force, mais dans ce qu'il vit, peut-être un exemple qui doit nous servir d'enseignement dans ce qu'il ne faut pas faire. Alors voilà, comment a commencé la vie de Samson? Eh bien, d'abord dans une famille consacrée à Dieu. Un homme, une femme qui craignait Dieu, manifestement. Dans cette famille, il n'y avait pas d'enfant, il y avait une attente. Et puis voilà, l'ange est venu, l'ange de l'Éternel, et il a parlé à la femme et il lui a dit, voilà, tu auras un fils et ce fils sera mis à part, il sera naziréen. Ce qui, pour eux, ils savaient très bien ce que ça voulait dire, mais l'ange leur a rappelé. Ça voulait dire, le rasoir ne passera pas sur sa tête, il aura donc des cheveux, une chevelure jamais coupée, toute sa vie, enfin, tout le temps de ce vœu. Mais l'ange précise que, dans le cas de Samson, le vœu durera toute sa vie. Et le naziréen ne devait s'abstenir de toute consommation alcoolique, et même de tous les fruits de la vigne, même pas fermentés. Et puis, le naziréen, il ne devait toucher aucun mort, pour ne pas se souiller. Il était là comme une manière de se séparer pour se consacrer à Dieu. C'était le sens du naziréen, du naziréat, cet acte pendant un temps limité pour les hommes qu'il avait choisis, pendant le temps de leur vœu, donc pas d'alcool, pas de raisin, pas de rasoir sur la tête, une vie consacrée à Dieu. D'une certaine manière, le naziréen ne doit pas se souiller, il doit vivre son vœu pour un temps où il est totalement à Dieu. La seule différence de Samson, c'est que c'est Dieu qui l'a choisi, et donc ce vœu est pour toute sa vie. Et Samson, tout en étant consacré à Dieu, eh bien vit ces temps où la Bible dit « l'Esprit de l'Éternel se saisit de lui ». Et c'est en général avant une bonne bagarre, digne des bandes dessinées d'Astérix. Et moi je fais un parallèle avec le message qui nous a été donné la semaine dernière, où notre frère disait, ce n'était pas l'essentiel de son message, mais à un moment donné il a été très précis sur le fait que le chrétien reçoit le Saint-Esprit au moment où il se tourne vers Dieu, et que cela ne l'empêche pas aussi d'avoir des moments privilégiés où il va goûter cette plénitude de proximité avec Dieu, des temps forts où l'Esprit de Dieu agit tout particulièrement. Alors voilà comment ça se passait pour ce naziréen, ce consacré, cet homme dont toute la vie était pour Dieu, ou en tout cas un signe d'une séparation avec Dieu. Une des premières choses qu'il a fait, eh bien, ça a été d'aller se choisir une femme, mais non pas parmi son peuple, mais parmi les ennemis, une femme des Philistins. Et on sait que Dieu avait recommandé à son peuple de ne pas aller se lier avec des femmes étrangères, parce que les femmes étrangères amenaient au sein du peuple des occasions de chute, un éloignement de Dieu. Eh bien, la première chose que notre consacré de Samson a fait, c'était d'aller s'en choisir une chez les Philistins. Et ses parents n'ont pas compris. Ils ont dit, mais attends, il n'y en a pas une chez nous, dans notre peuple, qui pourrait te convenir ? Non, c'est celle-là que je veux. Alors, les parents n'ont pas compris leur fils, mais ils l'ont suivi, ils l'ont accompagné. Et c'est vrai que là, peut-être, on a un premier enseignement, c'est que Dieu utilise des situations qui peuvent paraître injustes pour accomplir son plan. Sur cet épisode-là, le texte nous dit qu'en fait, les parents n'avaient pas compris que c'est l'Esprit de Dieu qui voulait cela. Alors, on te dit, alors finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui voulait que Samson prenne une femme parmi les étrangers. Je ne suis pas sûr qu'il faille le comprendre comme ça. Je crois plutôt que l'Esprit de Dieu, que Dieu a utilisé Samson, on pourrait dire malgré sa démarche. Certes, Samson voulait une occasion de provoquer, il cherchait la bagarre, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu voyait les choses ? Je crois qu'on ne peut pas dire cela, mais Dieu a utilisé cette situation, Dieu a utilisé ce caractère-là de Samson. C'est vrai qu'il y avait dans Samson une volonté d'affirmer sa liberté de peuple de Dieu qui refusait la domination de ce peuple des Philistins. En allant chez les Philistins et en choisissant une femme là-bas, Samson a vécu son premier piège. Il sera piégé plusieurs fois par ses relations avec les femmes. D'une manière, on peut voir que dans Samson, quand il va chez les Philistins, et à l'occasion de ce mariage, il rentre dans ce monde, il y rentre avec la certitude que ses valeurs sont meilleures, que c'est lui qui a raison, qu'il y rentre avec un profond mépris pour ces Philistins. Et il cherche à les affronter sur leur terrain. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, à cette époque-là, les Philistins, manifestement, aimaient les défis intellectuels. Et donc, Samson a commencé à leur poser un défi, une énigme. Et à l'occasion de cette fête de son mariage, qui était une fête très ambiguë, parce qu'il y avait une opposition latente très forte, eh bien, Samson pose son énigme. Oh, il a choisi son énigme tout simplement, parce qu'en chemin, quand il venait, eh bien, il avait rencontré un lion, et tout seul, dans la campagne, face à un lion, l'Esprit de l'Éternel est venu sur Samson, et Samson n'a pas reculé, il a au contraire foncé sur le lion, il l'a attrapé et il l'a déchiqueté sur place, ce qui est quelque chose de prodigieux. À cette époque, effectivement, il y avait des lions, c'était dangereux, c'était des lions. Hein. Bon, Samson a déchiré un lion. Et puis, quand il est repassé pas mal de temps après, quand même, cet épisode-là l'avait un petit peu conforté dans sa vie, en se disant, mais effectivement, quand l'Esprit de Dieu est avec moi, ben, le lion, c'est assez rien, quoi. Hein. Et il est repassé voir le lion, ce qui veut dire quand même que ça ne l'avait pas laissé indifférent. Et puis justement, dans ce lion, il avait complètement séché, hein, certainement, il y avait la carcasse, et à l'intérieur de la carcasse, il y avait des abeilles, un essaim d'abeilles qui avait trouvé sa place là, et qui avait même été là depuis quelque temps, puisqu'ils avaient fait du miel. Et donc, Samson, très étonné, bien là, lui, nazirien, il ne doit pas toucher un cadavre, hein, mais bon, allez, un lion mort, tant pis, hein, je prends, hein, moi, il y a du miel, c'est bon, je prends. Hein. Et donc, il a pris ce miel, mais en même temps, il a gardé cet épisode de sa vie, de quelque chose qui était vécu quand même avec l'Esprit de Dieu, et il s'en est servi pour sortir une énigme. Il était le seul à connaître le sens de cette énigme. Il a dit, voilà... de ce qui mange est sorti ce qui est mangé, et puis de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Et il disait, voilà, et ben, le résultat de l'énigme, ça sera un essaim d'abeilles est venu dans une carcasse de lion. C'était bien trouvé. Et puis, cette énigme, il l'a proposée aux Philistins. Bien sûr, c'était très difficile à trouver. Mais les Philistins ont fait une pression très forte sur celle qui allait devenir sa femme. On lui dit, bah, écoute, si tu ne nous donnes pas l'énigme, ça va mal aller pour toi. Et elle a eu peur, et donc elle s'est soumise à ce chantage. Elle est allée voir son futur mari, dit quand même, si tu m'aimes, tu peux me dire à moi. Et Samson, finalement, a craqué. Il était faible de ce côté-là, d'une certaine manière. Et il a dit l'énigme à sa femme, qui, bien sûr, s'est empressée d'aller la rapporter aux Philistins. Et donc, Samson, qui pensait pouvoir montrer par l'esprit sa supériorité, en quelque sorte, a été humilié, parce que les Philistins ont trouvé le résultat de son énigme. Le texte nous dit qu'il était en colère. Donc, c'est intéressant. En colère, certainement, contre celle qui devait être sa femme. Mais je pense, pour ma part, que quand on est en colère contre quelqu'un, souvent, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'était pas convenable. Et je pense que là, Samson voyait son échec. Hein. Elle voyait finalement que, de cette manière-là, le plan de Dieu ne s'était pas accompli. Hein. Et que lui, il voulait peut-être montrer par sa supériorité intellectuelle ou morale, eh bien cela, il échouait. Et finalement, en quelque sorte, en voulant faire quelque chose, il a échoué. Alors, par vengeance, et uniquement par esprit de vengeance, il est sorti, il avait perdu son pari, c'était de trouver 30 tuniques d'habits, enfin 30 habillements complets. Bon, il a pris 30 philistins qui passaient par là, et il les a dépecés, et il a dit, voilà, on est quitte comme ça. Mais il avait dans le fond de son cœur une déception, hein, une colère qui était là. Et on va voir à partir de là tout un enchaînement de circonstances, à partir de ce défi de l'énigme, on va voir un Samson qui est ramené à son échec, sa réaction c'est d'être en colère, il retourne chez son père, il se venge sur 30 philistins d'épaisse, et puis au bout de quelques temps, bon, sa colère est tombée, il revient et dit, bon, quand même, j'avais une femme là-bas, je vais quand même la chercher. Il découvre qu'entre-temps, sa femme, on l'a donnée à un autre, c'est quand même une vexation supplémentaire, il supporte pas. Alors, il se venge, pour se venger, il met le feu à toutes les récoltes des philistins, en attrapant des chacals ou des renards, en mettant une torche enflammée il en attache deux par la queue, il met une torche enflammée, il les lâche dans les récoltes, bon, ça met le feu aux récoltes. Bien sûr, ça fait réagir les Philistins qui disent, qu'est-ce que c'est ça, c'est Samson, et pourquoi? C'est à cause de cette femme qu'il est venu chercher, bon, et puis il tue la femme et son père, par vengeance eux aussi. Du coup, cycle de vengeance, on continue, Samson apprend cela, et il débarque chez les Philistins, et le texte nous dit il est bâti à plate couture, ce qui, effectivement, veut dire qu'il y a eu quand même du grabuge, et voilà, on rentre pas dans les détails. Mais après cet épisode, la Bible nous dit il se retire dans la grotte. Et là, alors qu'il est maintenant retiré, il a pris un peu du champ, quoi, hein, voilà que c'est son propre peuple qui devant subir les représailles des Philistins disent « Mais ce Samson, il nous apporte que des ennuis, on va plutôt s'en débarrasser ». Et voilà que son propre peuple vient le chercher dans la grotte, l'attache et le livre aux Philistins. Et une fois qu'il est ramené au milieu du peuple des Philistins, eh bien l'Esprit de l'Éternel saisit à nouveau Samson, et c'est là une sorte d'apothéose, hein, en quelque sorte, avec une mâchoire d'âne qui trouve là, solide, hein, fraîche, hein, elle n'était pas sèche, hein, Samson tue 1000 hommes. Hein. Et on voit dans cet enchaînement de vengeance, de réaction, une progression dans le niveau des actes héroïques, hein, parce qu'on part de 30 Philistins et on arrive à 1000 ensuite. Mais en même temps, chez Samson, on découvre une solitude qui va grandissante. Au départ, il retourne chez son père, ensuite il retourne dans une grotte, tout seul, et pire que cela, c'est dans cette grotte qu'on vient le chercher pour le rejeter. Et donc ce sentiment de ne pas être suivi, de ne pas être compris par son peuple, est quelque chose qui grandit en même temps que grandissent les exploits de Samson. Et on en arrive à ce petit verset qui nous dit qu'après avoir tué 1000 hommes, Samson eut soif. Et c'est que cette soif de Samson, tout à coup, m'est apparue vraiment comme une rupture. Quand il eut achevé de parler, donc de dire avec une mâchoire « j'ai tué 1000 hommes à Ramath-Léchi », c'était l'endroit du nom qui était donné à cet endroit-là, donc glorieux, hein, « j'ai tué 1000 hommes », c'est bien lui qui l'a tué avec une mâchoire. Il est pressé par la soif. Et il dira à l'Éternel « est-ce que je vais mourir de soif ?» Donc ce n'est pas simplement qu'il a soif parce qu'il a fait un bon effort et qu'après l'effort, on est déshydraté, non. Je crois que cette soif-là était une soif qui le menait à la mort. C'est une soif qui, d'une certaine manière, disait toute la sécheresse spirituelle qu'il y a eu à ce moment-là dans le cœur de Samson. Et Samson a invoqué l'Éternel, c'est-à-dire qu'il y a eu tout à coup un déclic. Samson qui, malgré tous ses exploits, se sent seul et isolé, on pourrait dire presque dans un moment de déprime. Il revient là, et il se tourne vers l'Éternel et dit « Mais Seigneur, c'est par toi que j'ai réalisé cet exploit. » Et c'est vrai qu'à ce moment d'arrêt, quand Samson a eu soif, voyez, il passe d'un « j'ai tué 1000 hommes » à « Seigneur éternel, c'est toi qui as accordé ce grand salut ». C'est-à-dire qu'il reconnaît que ce n'est pas lui, Samson, c'est Dieu qui l'a fait. Et alors, dans ce temps d'intimité avec Dieu, là, il y a quelque chose de très fort. Après ces moments d'explosion et d'exploit, on découvre un Samson qui est là à se tourner vers Dieu, qui lui dit « j'ai soif ». J'ai soif. Est-ce que tu vas me laisser mourir ? » Et là, il y a un miracle, peut-être plus extraordinaire que d'avoir tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'est que Dieu brise le rocher et fait sortir une source. Et cette source-là désaltère Samson. Voilà, je vous disais, c'est dans ces petites choses-là qu'on comprend le sens de ce que peut vivre Samson. Je crois que Samson est parti bille en tête dans son idée. Dieu l'a utilisé, certes, mais à des moments donnés dans la vie de Samson, il y a ces arrêts qui lui permettent de revenir à Dieu, de retrouver que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est, c'est Dieu qui l'habite, c'est par Dieu qu'il existe, c'est par Dieu qu'il peut faire quelque chose. Cette source-là, elle a été appelée la source de celui qui invoque, de celui qui se tourne vers Dieu, et qui attend de lui. Vous savez, ça rappelle certainement dans la vie de Samson ce que certainement sa mère lui avait raconté, que quand l'Éternel avait dit « bon ben, ce fils-là, il va être naziréen », tout à coup, les parents-là, impressionnés, ils ont voulu offrir quelque chose à cet ange qui était là, et puis l'ange lui dit « non, vous m'offrez rien du tout, offrez des choses à Dieu, plutôt ça sera mieux ». Donc il dit « bon, on va faire un holocauste à Dieu ». Et quand l'holocauste était là, le feu montait vers le ciel, et voilà que l'ange de l'Éternel monte dans le feu et il disparaît. Et là, les parents, ils avaient dit « mais, effrayés ils étaient. Hein. » Et le père, notamment, il s'est dit « mais on va mourir, on a vu Dieu. Et la mère, et c'est là qu'on voit, dans ce couple, il y a des choses fortes qui se vivaient à deux. Et la mère dit, mais non, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas dit ça, il n'aurait pas accepté cet holocauste. Et alors on voit cette attitude de confiance qui était là dans cette famille et qui a certainement été transmise à Samson, qui a dit, mais quand les choses ne vont pas, c'est auprès de l'Éternel. Tu peux te retourner vers lui. Oui, il est fort et puissant, mais l'Éternel, c'est celui qui recueille son enfant. C'est celui qui te nourrira quand tu seras sur le point de défaillir. Oui, Dieu toujours répond à celui qui l'invoque. Alors, dans la deuxième partie de la vie de Samson, parce que ça a duré 20 ans quand même, les exploits de Samson, mais dans la deuxième partie, je dirais, on y découvre, on pourrait intituler ça l'apprentissage de la crainte de Dieu. Ce Samson qui vivait pour lui, eh bien, dans la deuxième partie de sa vie, donc a vécu un clash, donc, que vous connaissez, j'imagine, et ce clash était vraiment pour lui l'occasion aussi d'apprendre plus sur ce qu'est la loi de Dieu, l'étonnante loi de Dieu. C'est vrai qu'on le voit à la fin de sa vie, bon, il va chez une prostituée un soir, ma foi, on imagine ce qu'il a fait, la Bible ne raconte pas trop de détails, mais enfin, c'était pas pour se réfugier, c'était pas pour lui parler de Dieu. Et puis, voilà, il est cerné par les Philistins, l'Esprit de l'Éternel saisit à nouveau Samson, et au milieu de la nuit, Samson, il réalise qu'on est en train de le cerner, ni une ni deux, il fonce, les portes ont été fermées pour le garder à l'intérieur de la ville, il arrache les portes, les manteaux de la porte et tout, il emmène ça sur la montagne pour montrer que quand même, lui, Samson, c'est pas n'importe qui. Bon, peu de temps après, semble-t-il, il trouve une autre femme, c'est Dalila, et puis... elle n'était pas très recommandable quand même cette femme, parce que très sensible aux arguments financiers des choses. Hein, c'est-à-dire que quand les Philistins sont venus lui proposer de l'argent pour connaître le secret de Samson, eh bien elle était partante. Hein, et donc si vous me payez assez, oui, je vais faire ce que je peux. Et elle était assez fine pour pouvoir accueillir Samson et jouer un jeu de séduction avec lui dans lequel Samson est rentré. Et Samson a joué avec Dalila. Et un jeu qui finalement a été pour sa perte à Samson. Quand Dalila lui demande, mais quel est le secret de sa force, bon, on ne sait pas quelle apparence il avait, hein, Samson, parce que quand l'Esprit de l'Éternel n'était pas avec lui, bon, on ne sait pas s'il avait des grands muscles ou pas, hein, ça, c'est pas dit. Hein. Mais n'empêche que voilà, dans cette relation, elle s'approche de Samson et dans un élan de séduction, elle cherche à percevoir vraiment ce qui est admirable chez lui, cette force, etc. Quel est son secret ? Et on voit Samson qui rentre dans ce jeu, il voit qu'il y a une certaine superstition dans ce peuple, alors il s'en amuse. Il dit, mais il me faut 7 cordes fraîches et avec ça, je suis lié, tous mes pouvoirs disparaissent. Bien sûr, il s'amuse avec ça, mais Dalila est suffisamment fine pour se dire peut-être ça, mais peut-être pas ça. Donc elle tend une embuscade en se disant si jamais c'est vrai, les renforts pourront l'attraper, mais si c'est faux, restez caché. Et puis, c'était faux, bien sûr, 7 cordes fraîches ne faisaient rien contre la force de Samson. Et puis on suit cette progression, et elle insiste, et on est toujours dans ce jeu de séduction jusqu'au moment où Samson en est, comme dit le texte, son âme est rétrécie, hein, c'est-à-dire que au-dedans de lui-même, au fond, il étouffe. Hein. Il étouffe parce que il est là dans un peuple qui n'est pas le sien, dans une culture qui n'est pas la sienne. Il n'est pas à sa place dans cette relation avec Dalila. Il n'est pas à sa place dans ce peuple des Philistins, dans un lit et non pas sur un champ de bataille. Et finalement, de ne pas être à sa place, il en éprouve une certaine oppression. Hein, son âme rétrécit au dedans de lui. Et avec ce désarroi. Le texte est important là. Il nous dit que Dalila, qui essaye toujours de l'interroger, de savoir quel est son secret, etc., Samson lui ouvre son cœur. Et c'est là le changement. C'est là que Dalila a senti que ce coup-ci c'était pour de vrai. Hein. Là, c'était pas. Il a mené par un bateau, c'est elle qui avait la vérité là. Hein. Samson ouvre son cœur à Dalila. Pour un homme consacré à Dieu, ouvrir son cœur, c'est quelque chose que l'on réserve dans l'intimité avec Dieu. Hein. La relation la plus profonde et la plus personnelle que l'on peut avoir, c'est avec Dieu. Hein. Bien sûr, avec son épouse, quand on est dans un couple qui vit, où on est une seule chair, bien sûr, là, ce n'était pas le cas. Hein. C'était une relation amoureuse, certes, passionnelle, mais qui n'avait rien, d'un amour, et d'un couple biblique. Et donc, à l'intérieur de cette relation entre Samson et Dalila, il n'y avait pas la place pour l'ouverture du cœur de Samson. Et pourtant, Samson s'est ouvert à elle. Oh, il a pensé que ça n'enlevait rien. Qu'il n'y avait rien de magique dans ses cheveux, et en ce sens, il avait raison. Il n'y a pas de magie dans la relation avec Dieu. Cette chevelure abondante et jamais rasée n'avait rien de magique, mais elle était un signe. Elle était le signe d'un homme qui était consacré à Dieu, qui était un témoin dans ce peuple pour les autres. Et si l'on touchait à ce signe, eh bien, on montrait un autre signe. On montrait que finalement, Samson était comme un autre. Or, Samson n'était pas comme un autre. Et sans ce signe de ses cheveux, Samson n'était plus rien. Il devenait un Philistin. Il devenait un parmi le monde. Il devenait de ce monde. Il n'était plus du peuple de Dieu. Et c'est suite à cette démarche-là que l'Éternel a dit maintenant, ça, je ne suis plus. Et l'Esprit de l'Éternel n'a plus habité Samson à ce moment-là. Dalila a rasé la chevelure. Samson pensait que, bon, allez, encore une fois, je vais me lever et je vais tout emporter. La force l'avait quitté. L'Esprit de l'Éternel n'était plus avec lui. Il n'avait rien senti. Comme quoi, des fois, l'Esprit de l'Éternel, c'est pas forcément quelque chose que l'on va sentir, hein. Parce que Samson, lui, il ne sentait rien de différent des autres fois où l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Pourtant, l'Esprit de l'Éternel n'était plus avec lui. Et Samson n'a pu rien faire contre ces soldats philistins qui l'ont saisi, et qui lui ont crevé les yeux, et qui l'ont amené chez eux, et qui l'ont humilié, et qui se sont ri de lui. D'autant plus que cet homme qui les avait quand même fait poser tant de problèmes, tuer 1 000 hommes à Ramat Aléchi, plus les autres, le voilà maintenant inoffensif, et pour eux, quelle joie, quelle exaltation! Et ils ont ce souhait de l'humilier encore et de le faire venir lors de leur grande fête pour s'amuser, pour le faire danser, pour se moquer de lui. Et c'est donc dans cette circonstance-là, hein, donc je vous rappelle ce qui s'est passé, hein, les cheveux de Samson avaient repoussé, mais je crois qu'en lui, il y avait aussi autre chose qui avait repoussé, c'était le fait de se tourner vers Dieu. Et on voit rarement Samson se tourner vers Dieu dans le texte. J'ai évoqué une des situations tout à l'heure. En voilà une deuxième, au milieu des Philistins. Donc, Seigneur, dit Samson, souviens-toi de moi, je t'invoque, je te prie, donne-moi la force, seulement cette fois-ci, et d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins. Ah, la vengeance toujours, hein, chez Samson, ça, bon, mais Dieu l'utilise quand même. Et Dieu lui donne cette force, et donc, il choisit de mourir pour Dieu. De mourir au nom de l'Éternel en détruisant ce temple et tous les Philistins qui étaient dessous. Et donc, lors de ce dernier exploit de Samson, il y a eu plus de morts chez les Philistins que pendant tout le reste de sa vie, ce qui montre que Dieu agit malgré la faiblesse de Samson. Et finalement, ce que Dieu voulait montrer à son peuple, que Dieu donnait la délivrance, que le peuple pouvait attendre et se tourner vers Dieu, et s'il attendait de Dieu la délivrance, alors Dieu la donnerait. Le message était là, le message est passé, le message est passé à travers Samson. Mais je crois que ce qui nous reste comme enseignement de cela, c'est que la loi de Dieu est puissante, elle est exigeante, elle peut briser un homme qui s'en est éloigné, qui a méprisé en quelque sorte l'exigence de Dieu. Mais en même temps, l'histoire de Samson, c'est aussi l'histoire d'un homme qui s'arrête, qui revient sur lui-même, qui reprend les choses là où il les a laissées, qui retrouve son engagement, qui retrouve sa consécration et que Dieu bénit à nouveau, que Dieu approuve à nouveau. Voilà ce qui nous rapproche de Samson, de cette histoire. Je vous invite à la relire dans ce détail, hein, et peut-être avec cette orientation que j'ai tenté de vous donner, en vous rappelant qu'il y a des choses qui nous rapprochent. Nous sommes aussi dans une société qui perd ses valeurs, hein, et d'une certaine manière, nous sommes au milieu d'un peuple étranger. Hein, et puis, nous avons ce sentiment d'être dominés, d'être impuissants, et en même temps, le sentiment qu'il y a en Dieu quelque chose de fort et de puissant qui est là et qui est important. Un autre point qui nous rapproche de Samson, c'est que nous sommes dans un monde où les actions individuelles prennent le pas sur tout ce qui est collectif. Samson était un franc-tireur, il était tout seul, il n'était pas du tout accompagné du peuple. C'était un héros tout seul. Et de certaine manière là, il est assez proche de ce que vit notre société. Je crois que nous avons, comme Samson, un appel à témoigner cette mise à part. Bon, je ne dis pas qu'à partir de demain, il faut qu'on se laisse pousser les cheveux pour bien marquer que nous sommes consacrés à l'Éternel. Je vous laisse trouver ce qui sera dans votre vie la longueur des cheveux. L'engagement que vous avez pris, la chose qui marque cette séparation, qui dit « Moi, je suis avec cette consécration pour l'Éternel, je suis dans cette mise à part pour Dieu. » Et nous avons, comme Samson, un risque, c'est d'oublier ce qui est notre richesse, d'oublier ce qui est tout ce que nous avons reçu de Dieu, et de le laisser se dissoudre dans ce monde en entrant dans un jeu de relations, peut-être de séduction, avec ce monde qui, au bout du chemin, nous retire toute la richesse que nous connaissons avec le Seigneur. Oui, nous vivons un risque de compromission avec ce monde, et ce monde, cette compromission, est susceptible de nous piéger. Mais il y a donc dans Samson, au-delà de ces similitudes, il y a aussi les enseignements que j'ai essayé de souligner. Il y a cette affirmation que le plan de Dieu peut se réaliser malgré nous, avec des fois des détours étonnants que Dieu seul connaît, mais que Dieu conduit peut-être à notre insu et malgré nos erreurs. Que Dieu exige de nous une obéissance complète, constante, mais que pendant un temps, Dieu peut permettre que l'un ou l'autre s'égare sur des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu, qu'il vive des situations injustes. Mais Dieu est souverain pour, à un moment donné, arrêter notre chemin. Et avec la même puissance que Dieu nous a arrêtés sur un chemin et nous a peut-être fait trébucher, Dieu est le Dieu de la reconstruction et le Dieu de la réparation, de celui qui nous permet de reprendre la route là où nous avons dérivé. Pour celui qui a chuté, Dieu est toujours là pour le reprendre, pour le recueillir, pour qu'il retrouve la paix avec la communion avec son Seigneur. Alors, oui, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une vie qui a connu la consécration, mais qui, comme Samson, oublie de prendre sa nourriture chaque jour, de renouveler ce lien constant. Et c'est vraiment un privilège que nous avons sur Samson, c'est que le Saint-Esprit est maintenant à l'œuvre de manière permanente dans le cœur du chrétien. Et peut-être que Samson avait des difficultés pour trouver le contact avec Dieu. Ce n'est pas notre cas. Nous avons un privilège sur Samson. C'est que chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque instant dans notre journée, nous avons cette possibilité de nous approcher de Dieu. Nous avons des sources qui sont toujours là, disponibles, la source de celui qui invoque. Amen.